Pour ce créneau libre sur Radio Barthas, on vous propose l'examen final fait par la promo GENA de l'Institut Agro ici à Florac. On écoute ça tout de suite.
Salut, moi c'est Raphaël, je suis en licence professionnelle GENA et aujourd'hui on va vous raconter ce qu'on a fait lors de notre voyage d'études en Aubrac. Hey, Lilou, ça te dit de parler un peu de notre formation ?
Eh ben oui en fait, donc la licence en gestion agricole des milieux naturels, donc GENA, elle se situe à l'Institut Agro au sein du campus de Florac en Lozère. Et donc c'est une licence qui a pour objectif de faire le lien entre agronomie et écologie pour concilier agriculture et environnement.
Ok, c'est parti. Alors maintenant, en route vers les acteurs du territoire. Mais alors, Camille, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce voyage ?
Eh bien, donc on part 3 jours dans le cadre d'un module filière et mode de valorisation des productions agricoles à la rencontre des différents acteurs du territoire du plateau de l'Aubrac.
Ok, alors allez, c'est parti ! En route vers les acteurs.
Alors, mardi matin, on a rencontré Louise Donizot, chargée de mission au PETR, Pôle d'équilibre territorial rural Sud-Lozère. Et puis sur le trajet pour aller dans l'Aubrac, on s'est arrêté voir Guillaume Xuéref, salarié de l'entreprise Moulin de la Borie et membre de l'association Farine du Méjean. Il nous a fait visiter le seul moulin à vent en activité sur le Causse-Méjean. Et après, on a roulé jusqu'à la Guiole.
Ouais, enfin, la Borie, ça a surtout failli être laborieux. Avec toute la neige, on a cru qu'on allait se retrouver coincé dans une tourmente.
Petite remarque importante, on ne dit pas la Guiole, mais la Guiole. Le lendemain, à l'Aïeul, on a visité la coopérative fromagère Jeune Montagne. On a rencontré Stéphanie Girbal, responsable des relations producteurs, qui nous a parlé de l'AOP, appellation d'origine protégée de l'Aïeul, et de l'IGP, indication géographique protégée, Tom Fraîche d'Aubrac. Dans la même matinée, on a eu l'intervention de Benoît Bourrier, responsable production et qualité, qui nous a présenté le label rouge BFA, bœuf fermier d'Aubrac. Dans l'après-midi, on est parti voir une éleveuse.
Oui, enfin, on est parti. On est certes parti, mais on n'était vraiment pas sûr d'arriver. Hein. La Laguna versus Wild, on l'a vu.
Oui, je disais qu'on est parti voir le GAEC de Montagnette et plus particulièrement Carole Fontanier-Plouzeau, qui travaille en Aubrac pure race et en circuit court avec de la vente à la ferme et qui est également certifiée HVE, haute valeur environnementale.
Et là, dernière soirée au super domaine du Vesser où on dormait. L'occasion de faire un super concert entre copains. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards. Et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Hop hop, les copains d'accord, mais le podcast d'abord. Le jeudi, on a visité la Grange Hautée dans le petit village de Nasbinal, donc avec Cécile du Coulombier, qui est présidente de l'association de valorisation des ressources naturelles de l'Aubrac, et donc qui détient la boutique de la Grange Hautée. Ensuite, à midi, on est allé pique-niquer à la cascade du Déroc, donc à 5 minutes de Nasbinal.
Et là, on a vu des goélands, on a vu des milans royaux, on a vu de la neige, on a vu des cangères, et surtout, on a marché dans l'eau. Et ouais, on a marché dans l'eau, et les pieds nus quoi, et c'est pas comme s'il faisait au moins 8000 degrés, hein. moins 8000.
Raph, calme-toi, on va reprendre le podcast, on va laisser Lilou parler.
Merci, et du coup dans un dernier temps, on s'est rendu à la coopérative Célia, donc présentée par Lucille Benoît, qui est animatrice de l'IGP Fleur d'Aubrac, et donc qui est technicienne de la coopérative.
Voilà, de retour à Florac pour reprendre tous les éléments qu'on a vus sous 3 grands axes, filière et organisation collective, développement territorial et enjeux environnementaux que nos copains vont vous détailler.
Faisons un zoom sur l'organisation collective des filières. L'organisation collective vise à associer différents acteurs d'une filière afin d'atteindre collectivement un objectif commun à chacun. En agriculture, le but principal est de mettre l'activité collective au cœur du travail à des fins économiques, sociales et environnementales. Au sein de chaque collectivité, coopérative, association, un ou plusieurs éléments déclencheurs ont permis l'ébauche de signes de qualité, de marques ou d'appellations favorisant le travail collectif.
Parmi les professionnels que nous avons rencontrés, nous avons remarqué que certains motifs reviennent plusieurs fois, tandis que d'autres sont propres à une unique production. La crise de la vache folle, survenue en 1996, a marqué le point de départ de la coopérative Célia, de l'IGP Fleur d'Aubrac, certifiée comme telle en 2010, et du label Bœuf Fermier d'Aubrac.
Benoît Barrier, président de l'association Bœuf Fermier d'Aubrac, est-ce que vous pouvez nous parler du contexte historique de la création de l'association, s'il vous plaît ?
Alors le Label Rouge, il a été créé en 1999. C'est une poignée d'éleveurs et la Maison Conquet, avec Lucien Conquet, qui ont œuvré pour la mise en place de ce Label Rouge suite à la crise de la vache folle. Une organisation, producteurs, distributeurs et des éleveurs, après sont venus conforter l'association pour permettre un équilibre financier pour tout le monde et le développement du Label Rouge Bœuf Fermier Aubrac.
Le moulin de Laborie a été remis en service grâce à la volonté des initiateurs du projet de valoriser le patrimoine et assurer une production de farine locale. La coopérative Jeune Montagne, quant à elle, a été motivée par l'exode rural qui menaçait la production ancestrale du fromage de l'Aïeul. Enfin, la Grange Hôtée est une association formée d'agriculteurs principalement, souhaitant limiter la surcueillette et voulant valoriser le territoire par les ressources naturelles. Des raisons bien différentes pour chaque qui prouvent à quel point le collectif joue un rôle primordial et permet des avancées significatives. Nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec Louise Donizot du PETR qui nous a partagé son expérience professionnelle, puis avec Guillaume du Moulin de Laborie qui a évoqué les divergences et dynamiques collectives. Est-ce que le PETR travaille toujours en lien avec d'autres organismes et collectivités ou bien est-ce qu'il peut mener des actions seul également ?
On travaille pas mal en collectif et c'est l'idéal hein, pour un projet qui est plus ancré sur le territoire et avec plus de cohérence. Donc on va travailler avec les différentes structures locales, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés. Moi, je peux peut-être plus parler de mon programme parce que je le connais plus finement. Mais voilà, moi, je vais travailler tant avec la Chambre d'agriculture que le CIVAM, l'ADAR, SAFER, Terre de Lien, le Parc national des Cévennes, l'Entente, l'Institut Agro, les agriculteurs, les CUMA, les ateliers de transformation, les cuisiniers de restauration collective, parce que voilà, je travaille sur les circuits courts dans la restauration collective. On ne peut jamais travailler vraiment tout seul. De toute façon, on travaille pour et avec. Voilà, je pense que le collectif est important dans notre travail.
Qu'est-ce que ça implique de travailler avec autant d'acteurs, des intérêts qui divergent ?
On aura les problèmes qu'on a dans toute association entre humains, on va dire. Mais ça marche plutôt pas trop mal. Après, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Mais il y a quand même un noyau dur d'agriculteurs et de boulangers qui sont là depuis le commencement du projet. Donc c'est quand même plutôt une réussite dans ce sens-là. Après, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Il faut arriver à coordonner cet ensemble de personnes dans un but commun.
Sur quels critères vous choisissez les commerçants avec qui vous acceptez de travailler ?
Oui, après, on n'a pas une politique précise, mais on veut travailler localement et avec les petits, faire vivre les gens du territoire. Quoi. C'est la même idée que sur la filière.
Oui. Nous avons ensuite interrogé la Grange Hôtée au sujet du fonctionnement de l'association.
C'est possible d'en dire plus sur le fonctionnement de l'association avec les producteurs ? Est-ce qu'il y a une charte à respecter ou pas ? Et quelle est votre relation par rapport à ça ? Et comment ça fonctionne ?
Pour être producteur, évidemment, dans l'association, il faut respecter le cahier des charges de la culture du thé d'Aubrac, donc qui a été écrit par les membres eux-mêmes. Ensuite, on fonctionne, pour faire simple, on fonctionne un peu comme une coopérative. Donc, alors, l'association achète le thé aux producteurs, elle s'engage à tout leur acheter. Les producteurs s'engagent à tout vendre à l'association, donc moyennant le respect, évidemment, du cahier des charges du thé d'Aubrac. Et puis, donc on prend aussi des nouveaux producteurs régulièrement. Par contre, on a mis en place le principe du parrainage.
Et alors, selon vous, quelle plus-value ça apporte pour les producteurs de travailler avec l'association ?
Eh bien, comme dans tout groupe collectif, on va dire que ça enlève le souci aux producteurs de la vente. Donc, c'est l'association qui se charge de trouver tous les débouchés. Et le producteur, il est sûr d'avoir son thé vendu. Donc, il est sûr de toucher ses sous. Par contre, nous, on n'impose aucune participation du producteur. On n'a pas fait de différence. Et ceux qui viennent, par contre, ont un bonus sur le prix du thé.
Nous avons également pu nous entretenir avec une technicienne de la coopérative Célia, Lucille Benoît, au sujet des modalités de rencontre entre acteurs.
À quelle fréquence faites-vous des réunions autour de la coopérative et avec quels acteurs ? Sur la coopérative Célia, on fait en général deux conseils d'administration par an avec une trentaine de personnes, autant bouchers que représentants d'éleveurs. Et après, on fait aussi des conseils par territoire d'élevage. Donc on en fait 3 ou 4 par an et un gros plus global sur tout le territoire de la coopérative.
Enfin, Benoît Barrier nous a fait un point sur l'inclusion des producteurs à la rédaction du cahier des charges du label Bœuf Fermier d'Aubrac.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est rédigé le cahier des charges avec les différents membres en fonction des différentes volontés de chacun ?
Alors le cahier des charges qui a été déposé en 1999, il a été remodifié quelques fois depuis, en collaboration avec les éleveurs, les distributeurs, pour permettre à chacun d'être en lien avec ce qui se fait de mieux dans la race au braque.
Après avoir abordé la complexité de l'organisation collective, nous allons désormais voir ce que les différents signes de qualité apportent au territoire de l'Aubrac et à ses traditions.
Transition trop cool pour le groupe numéro 3.
Le plateau de l'Aubrac est un territoire rural peu peuplé qui pourrait paraître isolé mais qui aujourd'hui bénéficie d'une structuration de filières lui permettant de valoriser des produits issus de savoir-faire anciens. C'est un territoire de contraste qui abrite des patrimoines naturels et agricoles diversifiés, reconnus par-delà ses frontières et qui participent à l'essor économique et social du territoire. Cette reconnaissance s'appuie sur des signes de qualité, tels que les labels, comme nous l'explique M. Barrier de la Maison Conquet.
Aujourd'hui, la filière bœuf fermier Aubrac, ça a été le moyen de s'identifier avec une viande label rouge appropriée à un territoire et centrée autour du berceau même de la race, qui est le plateau de l'Aubrac. Ce label rouge, avec la production de ces animaux, a permis aux éleveurs de valoriser une partie de leurs animaux dans un signe officiel de qualité. C'est ce qui apporte aujourd'hui une meilleure rémunération aux éleveurs et une identité à un territoire.
Certes, ces filières concernent des productions de niche qui ont un effet moteur important sur le territoire en termes d'emploi, de développement rural et économique. Cette complémentarité entre maintien de savoir-faire ancestraux et modernité permet à la région de l'Aubrac et ses produits d'exception de rayonner à l'échelle locale comme internationale. En effet, ces produits se retrouvent à la fois sur les tables japonaises et celles du restaurant étoilé de Michel Brasse à l'Aïole. La coopérative Jeune Montagne s'inscrit, elle aussi, dans cette dynamique. Laissons Stéphanie Girbal nous en dire un peu plus.
Donc il faut se dire que producteurs et salariés, c'est 300 personnes qui vivent sur le territoire. Enfin, le territoire au sens large, pardon, parce qu'on a quand même des salariés qui viennent d'Espalion, voire d'un petit peu plus loin. Hein. Tout le monde n'habite pas sur la zone. Mais quand même, ça crée une grande dynamique. Et le fait qu'on ait une AOP et une IGP, c'est un ancrage sur le territoire. C'est pas délocalisable, notre production. Donc on est une niche, hein. faut dire qu'on est une niche. Hein. Le Laïol, c'est 650 tonnes par an, donc on n'est pas au volume du comté, par exemple. Mais on sait que ça, on ne pourra pas le délocaliser. Et comme dirait notre directeur, Yves Souyol, on a une communauté de destin ici, c'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau, que ce soit salarié ou producteur. Le résultat du travail de l'un dépend du travail de l'autre.
Ici, nous avons l'exemple de produits emblématiques du territoire, à savoir les filières viande et fromage. Cependant, de nouvelles filières se développent pour assurer une diversité de production sur le territoire et justement revaloriser des produits issus de savoir-faire anciens, mais qui avaient disparu avec l'industrialisation. C'est le cas par exemple du moulin de la Borie, qui relance la commercialisation de farine locale. Auparavant, on dénombrait en effet 7 moulins à vent sur le Cosmégen, qui ont tous cessé de fonctionner. Le moulin de la Borie a ensuite été rénové pour relancer la filière via l'association Farine du Mégen. Guillaume Géref nous en dit quelques mots.
Bon, là, il y a quand même vraiment une dynamique autour du moulin pour arriver à coordonner ces cultures de céréales sur le COS. Et donc après, ça a créé une production de céréales spécifique pour le moulin qui ne se faisait pas avant. Et puis après, pour les boulangers, ils ont toute une gamme de pains qui sont faits maintenant avec les farines du moulin de la Borie.
Dans un autre secteur de production, le thé d'Aubrac est aussi un exemple de diversification, ce que nous explique Cécile Coulombier, la présidente de l'Association de valorisation des ressources naturelles de l'Aubrac.
Alors, notre activité autour de la plante a en fait permis de faire peut-être émerger un petit niveau encore pour le moment, une nouvelle filière, un nouveau produit. Quand on parle des filières de l'Aubrac, maintenant on est aussi invité pour parler de la plante. Donc dans un pays où il y a du fromage et des vaches, c'est bien.
Face à un attrait grandissant pour les régions rurales et agricoles, l'agrotourisme constitue lui aussi une voie de diversification pour les agriculteurs, qui peuvent ainsi partager leur savoir-faire et communiquer autour de leur production à un public plus large. Malgré cette structuration de filières, les producteurs ne trouvent pas toujours de débouchés sur le territoire et sont parfois amenés à vendre leur production à l'étranger. Les défis d'aujourd'hui concernent donc également le territoire de l'Aubrac avec, comme nous avons pu l'entendre par exemple ces dernières semaines, des questions importantes telles que l'import-export ou encore l'impact environnemental de l'agriculture.
Décortiquer un peu plus précisément les engagements environnementaux qui sont demandés dans les cahiers des charges des filières et leur mise en application à différentes échelles. On a rencontré Benoît Barrier de la boucherie charcuterie Maison Conquet, à qui nous avons demandé les mesures environnementales du cahier des charges bœuf fermier d'Aubrac.
Mais sur le cahier des charges, ce qu'on impose, c'est d'avoir une transhumance à plus de. Enfin, une période estive à plus de 800 mètres pendant 4 mois. Et naturellement, à cette altitude-là, on est essentiellement sur des prairies naturelles.
Pâturer en prairies naturelles favorise l'extensification de l'agriculture, la biodiversité sauvage et le respect des sols vivants. Une bonne gestion de ce pâturage permet le maintien de paysages de l'Aubrac et optimise l'autonomie alimentaire. Il est possible d'aller encore plus loin dans les pratiques. Ça nous évoque d'ailleurs le GI2E, Groupement d'intérêt économique et environnemental de la coopérative Jeune Montagne. Elle a constitué un groupe de travail sur la question fourragère en proposant des formations sur le pâturage tournant dynamique pour une meilleure gestion des ressources. Pour citer un autre exemple en filière longue d'une démarche environnementale, la coopérative Célia a créé le label Célia Nature et Environnement suite à la demande de l'Auxerviande pour une meilleure valorisation de leurs produits. Écoutons à présent Lucille Benoît nous parler de ce label Nature et Environnement.
Alors ce label donc est porté principalement sur la biodiversité. On va regarder le traitement antiparasitaire effectué sur le troupeau d'un éleveur. Il ne faut pas qu'il soit nocif pour la biodiversité et notamment pour les scarabées coprophages pour en avoir le maximum possible et que les excréments des vaches se désintègrent le mieux possible dans la nature.
Nous avons à présent le témoignage de deux coprophages, des coléoptères qui vivent dans des bouses et s'en nourrissent, que nous avons rencontrés sur le terrain.
Bon alors, mon Ludo, qu'est-ce que t'en penses de ce label, toi ?
Ben, il faut dire que c'est un bon début, étant donné qu'on est complètement intolérant aux antiparasitaires.
Mais m'en parle pas ! Hier soir, j'ai retrouvé mon tonton Arnaud. Tu le connais, tonton Arnaud ?
Bien sûr.
Les six fers en l'air à côté d'une bouse remplie d'ivermectine.
Oh, c'est bien malheureux, mais bon, au moins nous, on est pris en compte dans les diagnostics, hein, contrairement aux autres animaux.
Oh, c'est bien vrai, ça.
Ces mesures ont le mérite d'exister et peuvent être utilisées par le plus grand nombre. Elles encouragent les éleveurs à adopter des pratiques plus vertueuses, mais elles restent très larges et mériteraient d'être approfondies au regard des enjeux environnementaux. Justement, Carole, agricultrice de vaches allaitantes au Brac, n'a pas attendu les labels pour adopter des pratiques respectueuses de la biodiversité.
Parce qu'on est sur un territoire et sur un système de fonctionnement où on travaille en symbiose avec la nature, clairement. On n'a pas d'intrants, on n'a pas besoin d'utiliser aujourd'hui de pesticides ou autres. Donc c'est vrai que c'est un avantage pour la préservation de la biodiversité. On a des haies, on a des arbres qu'on maintient aujourd'hui. Pour moi, c'est juste du bon sens, c'est que la façon dont on travaille, elle se fait assez mieux avec l'environnement, parce que c'est l'environnement qui permet à notre activité de se faire. Bien sûr, on fait tourner nos bêtes sur les prairies pour pas qu'elles massacrent tout, parce que de toute façon, si elles massacrent tout, on n'a pas l'herbe derrière qui repousse. Donc voilà, je pense que les choses se font de manière, par le bon sens finalement paysan, plus que par des démarches, labels, normes. Voilà, pour nous, on rentrerait certainement dans des normes, hein, mais c'est pas la volonté, parce qu'on continue. Qu'on travaille selon des normes qui nous conviennent bien parce qu'on vit sur notre exploitation et avec nos enfants. Donc, voilà.
Alors c'est quoi vraiment le bon sens paysan ? C'est une notion qui peut être très relative selon les points de vue de chacun chacune. Et en rencontrant les acteurs et actrices du territoire, on s'est rendu compte que le fait de maîtriser la filière dans son entièreté à une échelle locale permet de donner du sens à ses pratiques et donc de limiter les impacts négatifs environnementaux. Cela fait écho avec le moulin à vent du Causse-Méjean, la Méjanette, qui a réussi à rétablir une filière jusqu'alors complètement disparue, de la graine à la farine jusqu'au pain.
On veut faire une farine locale, donc il y a un périmètre qui est défini à 50 km autour du moulin, donc on travaille qu'avec des acteurs du territoire, on peut dire. Et on interdit toutes sortes de pesticides, que ce soit au niveau des champs, du stockage ou des semences. Et on encourage l'utilisation de fumures organiques aussi. On accepte autant des producteurs bio que non bio, bien que la production soit largement plus bio maintenant. Mais même ceux qui ne sont pas bio suivent cette charte.
Dans certaines filières, maîtriser la totalité de la chaîne s'avère plus complexe. Les éleveurs ou éleveuses n'ont pas ou peu de moyens d'action à certaines étapes. Chaque production a ses contraintes et dans le cas de la filière viande, c'est l'abattage. Mais sur le territoire sud Lozère, le PETR accompagne un projet d'abattoir mobile.
Ça répond à un besoin des éleveurs et ça répond à un enjeu de maîtriser ce maillon de la chaîne et de pouvoir abattre eux-mêmes leurs animaux. Chose que pour l'instant, ils font tout eux-mêmes, hein, ils les font naître, ils les élèvent, ils les découpent, ils les transforment, ils les commercialisent, les produits derrière, mais ils ne peuvent pas faire l'abattage. Et en termes environnementaux, actuellement, il faut aller à un abattoir à plus d'une heure et demie de route. Donc y aller une première fois pour décharger le bétail vivant et une deuxième fois y retourner plus tard pour récupérer la carcasse. Donc ça fait deux allers-retours, donc c'est déjà beaucoup de temps et après aussi beaucoup d'impact, notamment en termes d'émissions carbone.
Finalement, est-ce que ce ne serait pas au moment où l'on perd un lien direct entre ces animaux et le territoire local que les productions se trouvent de plus en plus déconnectées des enjeux environnementaux ?
Cette question des filières permet finalement d'aborder la production agricole dans toute sa complexité et soulève de nombreuses problématiques au cœur d'enjeux actuels. Pour conclure cet exercice, Raphaël a pris la casquette de reporter pour glaner ici et là les réflexions de ses collègues et des formatrices impliquées. Merci pour votre écoute.
Salut Mathilde Hossé. Alors après ces trois jours en immersion dans les filières, qu'est-ce qui vous a marqué ? Qu'est-ce qui vous a marqué ?
Déjà de voir concrètement comment ça se passe au sein d'une filière, comment tout ce beau monde est organisé. Et je pense que ça soulève aussi pas mal de questions.
Ça soulève pas mal de questions, notamment qui n'ont pas forcément été trop abordées au sein du voyage. Par exemple, les questions de bien-être animal, de transport des animaux, parce qu'on a vu que la question des abattoirs, où ils étaient plus ou moins éloignés du secteur de production des exploitants agricoles, et on se disait que ça aurait pu être intéressant d'avoir tout un volet là-dessus, sur le transport des animaux, comment ça a cheminé, comment ça se passe à l'abattoir, qui est un maillon de la filière qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va sûrement voir la semaine prochaine.
Ouais, ça fait écho. Du coup, ça fait une suite à notre voyage d'études, la visite de l'abattoir. Et puis aussi, c'était assez rafraîchissant de voir qu'il y avait des filières comme le thé d'Aubrac qui existaient sur un territoire où quand même la viande, le fromage, enfin justement tous les produits, enfin les animaux d'élevage sont surreprésentés. Donc je trouve ça aussi intéressant de savoir qu'il y a d'autres possibilités.
Salut Julie, du coup nous on est post-voyage, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à l'évolution de tes représentations, notamment au niveau des filières ou de la qualité et encore du terroir ?
Salut Raph, moi ce qui m'a un peu surprise pendant cette semaine de voyage d'études, c'est le fait que les agris sur le terrain avaient très peu besoin de labels en fait sur leur production pour pouvoir vendre facilement à leur clientèle. J'ai vraiment trouvé que ils estimaient que un label c'était vraiment de l'argent pas gaspillé, mais voilà, qu'on mettait de l'argent dans des labels alors que c'était pas vraiment nécessaire et que ils arrivaient très bien à trouver une clientèle sans ça.
Et toi, Ulrich, quelle est ta vision du terroir ? Est-ce que ta vision du terroir a évolué grâce à ce voyage ?
Eh bien, ce voyage n'a fait que conforter donc ma vision du terroir, puisque pour moi, le terroir, c'est des savoir-faire, des traditions qui se doivent d'être maintenues et pour lesquelles une multitude d'acteurs se mobilisent chaque jour.
Super, merci. Claire, toi, t'es formatrice et t'as déjà eu l'occasion de partir plusieurs fois avec des étudiants autour de cette question justement de filière. Là, au cours de ce voyage, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et interpellé?
Alors cette année, je crois que ce qui m'a le plus interpellée, c'est vraiment d'approcher la complexité des rapports qu'il y a entre des filières longues et des filières courtes. Et je trouve que là, les exemples qu'on a vus ont montré vraiment qu'on ne peut pas opposer filière longue, filière courte, et que sur un territoire isolé comme celui de l'Aubrac, des filières plus longues avec des acteurs comme des coopératives qui permettent de structurer autour d'un produit emblématique ont toute leur place et ont toute leur place à côté de filières beaucoup plus courtes qui n'ont pas forcément besoin de signes officiels de qualité, qui sont basées sur la confiance entre producteurs et consommateurs. Donc je crois que vraiment ça ne s'oppose pas, c'est au contraire très complémentaire et c'est ce qui fait peut-être sur ce territoire de l'Aubrac en fait la réussite un peu de leur démarche de valorisation des produits en lien avec leur forte identité.
Toi Armelle, tu es aussi formatrice à Supagro, alors qu'est-ce que tu as retenu de ce voyage?
Ben moi, ce qui m'a marqué, c'est les deux éleveurs qu'on a rencontrés, qui sont plutôt bien dans leur basket. Ils sont assez récemment installés et ils sont contents de leur travail, contents des filières qui montent. Et ces deux éleveurs qui étaient en circuit court, ça m'a marqué.
Super. Après, tu as un autre avis peut-être par rapport à la filière, notamment bouchère, qu'on a vu peut-être avec la COP Célia.
Oui, cette année, on était vraiment au cœur de la coopérative puisqu'on a vu les animaux arriver par camion, le lavage des camions, les animaux qui montent pour aller, on imagine, vers l'abattoir. Et c'est vrai que c'est assez questionnant de voir ces animaux, quoi. Et je me dis qu'il faudrait peut-être faire un cours sur l'éthique à venir pour nos futurs GENA.
Le podcast que vous venez d'écouter a été réalisé par les étudiantes et étudiants de la licence professionnelle GENA, Gestion agricole des espaces naturels ruraux, dans le cadre d'un module sur les filières et modes de valorisation des produits agricoles. Ils ont été accompagnés par leurs formatrices, Armelle Tournaire et Claire Ergotte, et par l'équipe technique, toujours au top, de Radio Bartas.
Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard, sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Bon les GENA, c'est pas bientôt fini? Au boulot!
Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les